Bonsoir tout le monde, merci d'être venus si nombreux. Je vois que finalement on aurait dû peut-être surbooker en voyant la salle un petit peu parsemée, mais on n'a pas voulu prendre ce risque. Bienvenue à tous, merci au Centre Sèvres de nous accueillir aujourd'hui. Merci énormément à Gaëlle Giraud et à Dominique Méda de nous avoir aidés à organiser cet événement au nom de l'Institut Veblen. Je suis Aurore Laluc, co-directrice de l'Institut Veblen. Je vais avoir le plaisir d'animer cette soirée qui me paraît assez palpitante. Merci également à tous les intervenants d'avoir accepté au pied levé, il y a à peu près une semaine à peine, de venir comme ça, d'avoir dit oui alors que le programme n'était pas défini, qu'on ne savait pas encore où on allait aller, etc., etc. Donc un grand merci de leur confiance. On va parler Europe ce soir. D'habitude, quand on parle Europe, on a très très peu de monde dans nos séminaires et dans nos conférences. Bizarrement, ce soir, on a plein de monde. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Mais on est très content d'avoir du monde pour discuter Europe. À l'Institut Veblen, on est sur une position qui est, c'est vrai, très pro-européenne, même si on ne s'interdit aucun débat. Mais on est effectivement persuadé qu'on doit sauver l'Europe. Et surtout les Européens, en fait. Sauver les Européens grâce à l'Europe. Même si on a des débats très tendus au sein de l'Institut sur cette question, parce que je fais partie, par exemple, des gens qui sont fédéralistes, mais qui étaient contre la création de l'euro, parce qu'ils pensaient que la façon dont l'euro se faisait était fondamentalement anti-européenne. Donc on a des débats assez palpitants au sein de cet Institut, avec un Philippe Frémaux qui n'est pas du tout sur la même position que moi, par exemple. Voilà. Et aujourd'hui, on va débattre donc de l'Europe et on va essayer de montrer pourquoi il faut sauver cette zone euro et comment on peut la sauver. Alors sur la question du pourquoi, on va avoir Yanis Varoufakis, que vous connaissez, je suppose, tous et toutes. Fantastique économiste, probablement l'un de ses des meilleurs économistes de sa génération. mais comme Gaëlle Giraud, qui est à côté, et comme moi, bien sûr. l'un des meilleurs, j'ai dit. Il y en a un des deux qui fait partie du comité. Donc, Yanis va nous expliquer pourquoi on doit sauver la zone euro. C'est le cofondateur d'un mouvement pan-européen qui s'appelle DiEM25. Vous pouvez aller voir sur le site internet de DiEM25 si vous êtes intéressé par ce mouvement. Il y a énormément d'événements un peu partout en Europe organisés par ce mouvement. Ensuite, nous allons écouter Dominique Méda, sociologue, philosophe de l'Université de Dauphine, qui travaille sur les questions travail. Tu n'aimes pas le terme de sociologue ? La meilleure sociologue de sa génération, pardon. Pardon, excusez-moi, la meilleure philosophe de sa génération aussi. qui travaille sur les questions de travail et d'emploi, mais aussi sur les questions de modèle post-croissance et qui a écrit un nombre de livres infinis sur la question. Je peux vous citer La mystique de la croissance, par exemple, dont je vous recommande la lecture. Dominique va nous dire comment sauver l'Europe du point de vue travail, emploi, modèle social. Puis, nous aurons Audrey Pulvar, présidente de la FNH, la meilleure présidente de sa génération. De sa génération. Ça va être dur.
Il y en a un tous les 27 ans.
Voilà.
Je suis la première femme.
C'est vrai, première femme. Qui va nous parler transition écologique, politique agricole commune, transition agricole, accord de commerce, notamment avec l'actualité du CETA, et pourquoi pas chambre du futur. Puis, nous parlerons avec donc Gaëlle Giraud, l'un des meilleurs économistes de sa génération. Je vais faire la blague à chaque fois, même si là, c'est pas une blague. Gaëlle va nous parler.
Ah ben, ça va. On a merci, quoi.
On est détendu, c'est l'Institut Veblen, hein. C'est très détendu comme ambiance. Gaëlle va nous parler architecture de la zone euro. Finance, régulation financière, Banque Centrale Européenne, des sujets qui peuvent paraître rébarbatifs, mais quand Gaëlle en parle, vous allez voir, c'est tout à fait passionnant. Puis, nous aurons une séquence plus politique cette fois-ci, avec deux eurodéputés, les meilleurs de leur génération, Yannick Jadot, député Europe Écologie Les Verts, qui mène de nombreux combats sur le CETA, notamment, sur la question des perturbateurs endocriniens, du glyphosate, etc., etc. Et Yannick nous parlera de la démocratisation de l'Europe. Puis nous aurons Guillaume Balas, député européen également, qui mène des combats, ma foi, très similaires sur le CETA, le glyphosate également, les perturbateurs endocriniens. Et Guillaume nous parlera cette fois-ci des alliances politiques et des réformes institutionnelles pour sauver l'Europe. Voilà, sans attendre, j'ai bientôt passé la parole à Yannis Varoufakis, mais je ne pouvais pas le faire sans dédier cette conférence à la mémoire d'un garçon qui s'appelait Jean-Baptiste Mercier et qui m'aurait fait des blagues très très lourdes ce soir, qui ne pourra pas me les faire malheureusement, et qui était un grand fan de Yannis. Voilà, Jean-Baptiste, elle est pour toi cette conférence.
Bonsoir, thank you so much, Aurore, for your kind words for all of us. So, why save Europe? This is pertinent question put to us, to those of us who created, who founded the Democracy in Europe movement in February 2016 in Berlin, coming especially powerfully from the left, from members of the left who would address us with a very legitimate criticism. This European Union was always meant as a cartel-like set of institutions which evolved after the 1970s into a set of institutions pursuing a clearly neoliberal agenda against organized labor, against societies, in an attempt to depoliticize politics and therefore to turn it into toxic conservative politics. This is very much so. Also, there was a second criticism, that there is no such thing as a European demos, therefore there cannot be such a thing as a European democracy. This is a rather curious criticism to come from the left, because it's usually associated with the Eurosceptic right in the United Kingdom, the Burkean, the Edmund Burke school of thought, which claims that there can only be a one-to-one relationship between one nation, one language, one parliament, one currency. But nevertheless, this has also seeped into the mentality of much of the left. Well, allow me to answer these interesting and, to some extent, legitimate criticisms. Firstly, the one thing we've learned from the Green movement is that there are some problems that our societies face which require local action, but which cannot be solved by means of local action. And that is, of course, climate change. Europe is facing, and all the European countries are facing, four crises all at once. It is the crisis of public debt, of private debt and banks, that's the second one, of exceptionally low investment, historic lows in investment, and fourthly, a humanitarian crisis, an increase in poverty and exclusion. I shall submit to you, and maybe you can discuss this later, that all those four, each one of those four crises, is like climate change. It requires local action, action at the base of the city, of the region, of course the nation state, but that is not enough without a coordinated attack. There is no way that we can solve the problem of Italian public debt without addressing Greek public debt or Spanish or Portuguese or indeed French public debt. There is no way we can sort out the mess of the Italian banking sector without dealing with Deutsche Bank or the Greek banks. There is no way we can boost investment into the things that society wants, into green transition, for instance, and green energy in one country but not in the others. It is not possible to combat poverty and exclusion in one country but not in the others. We need coordinated action at the center to make our local and national attempts to deal with these problems viable. in our own nation state. Now, allow me briefly to address my fellow Marxists. Last time I checked, the slogan that Marx used, and Engels, was "Proletarians of the world unite." It was not "Proletarians of the world build higher walls and electrify them." By "Proletarians of the world unite," Marx was not arguing that the nation state is not important. He was not arguing against the importance of national culture. He was arguing brilliantly against the concept of a national interest. Since when has the left forgotten this? The left opposes the bourgeois belief, or should oppose the bourgeois belief, in one nation, one sovereignty. It opposes the left, the view that a demos is related to DNA or to some kind of historic process which is independent of struggles. We are creating a demos through political action. The Italian nation was created through political action. It did not exist before Garibaldi as a nation. The German nation did not exist. The Greek nation did not exist. We need to create the demos constantly through action. If our problems are common and they resemble climate change at the continental level, and we need political action at the continental level, it is that political action that will shape the demos that will make European democracy not only possible, but the only solution we have. The challenge we face as progressive radical Europeanists is how to steer a course between the authoritarian incompetence of the establishment, that is insisting on policies that are disintegrating Europe and delegitimizing Europe, and the nationalist international that wants to disintegrate. There is a fallacy in our media and in our public discourse. It is a fallacy that Le Pen is the enemy of Macron, that nationalist international is the enemy of the establishment. That's not true. They are accomplices. Macron needs Le Pen, and Le Pen needs Macron. The establishment, Dijsselbloem and Schäuble, need the alternative through Deutschland and the Golden Dawns to legitimize themselves. And the Golden Dawns and the alternative for Deutschland need the establishment to defend their own legitimacy. What we must do is we must fight a war at two fronts, against the establishment and against the nationalist international. When I, as a failed finance minister of a failed state, when I go to, as representing Diem, to Hamburg or to Stuttgart, and I call upon the audience and potential comrades to join us in order to fix Europe and in order to turn both progressives in the South and in the North against the establishment of the South and of the North, that is a unifying message. If I were to say to them instead, we progressive Greeks are going to leave the European Union and the Eurozone, and good luck to you, just depression would descend upon the room. This is not the way to build solidarity. Allow me to finish off by saying that Europe, despite the neoliberal and terrible architectural design of the Eurozone, has provided Europeans with access to certain human rights, environmental rights, and labor protection standards. We have an integrated production network, the destruction of which is going to come at a very large cost for all Europeans. And the fragmentation of the European Union is only going to strengthen the nationalist international, not the progressives amongst those in the left who want to disintegrate the European Union. They will be in the same gulag as we are after the destruction of the European Union. So what we need to do, and this is what DiEM25 has been struggling to do for 2 years now, is to produce an antidote to the dogma of Eurotina. Eurotina is a term that I've coined. is the dogma that there is no alternative in the European Union. I believe there is. Our strategy as the M25 can be summed up in two words: constructive disobedience. We put forward constructive proposals that could be implemented tomorrow morning, not in a pie-in-the-sky federation that hasn't happened yet. Something that can be done tomorrow morning to lead to a democratized, federated Europe in 10 years' time, 20 years' time. So we're being constructive Europeanists. But at the same time, there is the second part of the strategy, which is disobedience. We veto the hell out of any political force that puts a gun on our heads, like they did to me in the Eurogroup, forcing us to accept business as usual and Tina. That is the way to move forward. And if it is the powers of regression and the establishment that disintegrate the European Union, the fault goes to them, the blame is on their shoulders, and we, the radical Europeanists, will be left to pick up the pieces in order to put back together the European ideals that only the humanist progressives in Europe can safeguard. Thank you.
Merci, merci Yanis. Yanis reprendra tout à l'heure la parole à la fin pour faire une conclusion et pour dresser les lignes de la façon dont on pourrait sauver l'Europe. Puis on aura une séance de questions-réponses avec la salle. Je vais passer tout de suite la parole à Dominique Méda.
Merci Aurore, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai envie de commencer en disant que jamais l'analyse de Karl Polanyi dans La Grande Transformation n'a paru autant d'actualité. Hein. On a l'impression d'être dans un moment, dans une époque où les derniers garde-fous ont sauté, avec l'absence de toute limite à la libre circulation des capitaux, avec la mise en compétition systématique de tous les territoires et de toutes les législations nationales du travail, l'abaissement de toutes les protections, y compris au sein de l'Europe elle-même. Et il me semble que tout ça ne peut que conduire, comme dans les années 30, c'est ce que raconte Polanyi, hein, à l'expression d'une volonté de protection et de réencastrement à n'importe quel prix, y compris antidémocratique. Je signale d'ailleurs, je rappelle hein, cette belle note du département de la recherche du FMI, je ne sais pas si vous vous souvenez, en mai 2016, qui avait vraiment attiré l'attention sur l'extrême gravité de la situation en disant que les politiques suivies n'étaient pas les bonnes, qu'on allait vers une explosion des inégalités. Cette note avait un ton très grave et je trouve qu'on n'y a pas fait assez attention. Alors, je voudrais dire deux mots de l'Europe sociale. Hein. Il me semble que l'idée d'Europe sociale qui nous a portés tous et qui a été un de nos éléments à l'attachement que nous portons à l'Europe, cette idée qui pouvait encore faire rêver il y a une vingtaine d'années, c'est devenu un mantra. Personne n'y croit plus. Plusieurs livres récents de spécialistes sont de ce point de vue très, très pessimistes. Je cite deux titres de livres, hein, celui de Daniel Vaughan Whitehead, qui est un économiste de l'Organisation internationale du travail. Le titre du livre, c'est « Le modèle social européen en crise, l'Europe est-elle en train de perdre son âme ?» Alors, il y a un point d'interrogation, mais la réponse est claire. Ou le livre d'Arnaud Le Chevalier et un de ses collègues qui écrit « L'Europe sociale, un cul-de-sac ». Dead end. Donc c'est des livres extrêmement graves qui mettent en évidence des faits incontestables, hein, écart grandissant entre les pays, notamment du point de vue des salaires, ça vous le savez, hein, de 1 à 10 maintenant, plus du tout de convergence alors que c'était l'objectif affiché, un écartement de plus en plus évident et même un redoublement des inégalités depuis la crise et dans certains États membres, hein, une augmentation des conflits sociaux, une détérioration des conditions de travail, une dégradation des services publics. Vous vous souvenez qu'on avait commencé par l'harmonisation, un coup d'arrêt a été donné à l'harmonisation, mais le processus qui a suivi, dit de convergence avec la fameuse MOC, la méthode ouverte de coordination, n'a pas marché non plus. Hein. Vous vous souvenez peut-être qu'au début des années 2000, on a abandonné l'objectif de qualité de l'emploi. Au tout début des années 2000, il y a eu un espoir hein, avec cette idée qu'il fallait absolument poursuivre la qualité de l'emploi. Et puis on l'a abandonné, notamment avec un fameux rapport Koch qui s'appelait « Jobs, Jobs, Jobs » et qui voulait dire « il faut mettre la quantité d'emploi à la place de la qualité de l'emploi ». Et on sait ce que ça veut dire. Hein. C'est le moment aussi où les lignes directrices de l'emploi ont été complètement absorbées par les GOP, les grandes orientations de politique. politique économique et donc une subordination totale du social à l'économique et un véritable benchmarking vers le bas avec c'est vraiment à celui qui fera le plus de modération salariale, qui reculera le plus l'âge de la retraite, etc. Et souvenez-vous aussi qu'on a eu partout les mêmes réformes de flexibilisation du marché du travail avec les fameuses recommandations du Conseil européen à la France. Hein, la loi El Khomri et la loi les ordonnances sont vraiment marquées telles quelles dans la recommandation du Conseil à la France en 2015. Alors, est-ce qu'il est encore temps de changer ou est-ce que définitivement on a été trop loin, hein? Vous vous souvenez que Mendès France en 57 avait dit que de toute façon c'était raté, qu'on était parti sur de trop mauvaises bases. D'autres pensent que ça s'est considérablement aggravé avec l'élargissement. Mais je voudrais dire en quelques mots pourquoi il me semble que d'abord il y a plein de raisons pour lesquelles il faut sauver l'Europe. Hein. Je crois que notre pays est trop petit, que face aux grandes puissances on pèserait vraiment très peu. Mais je crois qu'aussi positivement il faut dire qu'on a des valeurs communes, une histoire commune, une très belle diversité et je crois qu'on pourrait vraiment mettre toutes les possibilités, les virtualités, les capacités en commun pour proposer aux Européens et notamment à la jeunesse européenne un très très beau projet. Celui notamment, alors je reprends des mots qui ont été utilisés tellement de fois qu'ils ne veulent plus rien dire malheureusement, mais pour faire par exemple une zone de haute qualité sociale et environnementale. On pourrait quand même se donner ça comme objectif. Pour ça, il me semble qu'il faut, alors je dis peut-être une chose un peu différente de Yanis, certes travailler au jour le jour, mais je pense quand même qu'on est obligé d'avoir un changement radical, hein, une véritable bifurcation, une rupture, un changement majeur. On ne peut pas se contenter de ce sur quoi on est en ce moment. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter ce qui commence vaguement à se mettre en place, le socle de droit européen. Bon, il faudrait le rendre contraignant, évidemment. Les mesures proposées par le rapport sur le dumping social, le rapport de Guillaume, la révision de la directive sur les travailleurs détachés, des salaires minimums en Europe, tout ça, il faut le faire, bien sûr. Mais je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. Alors, j'en dirai pas beaucoup plus sur le sujet, mais il me semble qu'il faut considérer la question écologique comme la priorité absolue et reconstruire tout notre projet autour de ça, autour de cette nouvelle priorité, viser un nouveau modèle de développement. Nous, on appelle ça dans notre jargon des sociétés post-croissance, hein, inscrire nos sociétés radicalement dans des paradigmes différents, le paradigme de la post-croissance, qui n'est pas l'anti-croissance, qui n'est pas la croissance, mais la post-croissance, avec un nouveau paradigme du care, à la place du paradigme de la conquête et de l'exploitation, un paradigme du prendre soin des patrimoines essentiels, patrimoine humain, patrimoine naturel, de nouveaux indicateurs, etc., etc. Alors pour ça, évidemment, on a besoin d'un programme européen, d'un investissement massif. Je crois qu'on a besoin de canaliser l'épargne européenne vers ces projets-là, mais ces projets, il faut aussi qu'ils soient rassurants pour que les gens acceptent d'y placer leur argent. Donc je pense par exemple qu'il faut aussi qu'on développe des bons services de prise en charge des vieilles personnes, mais aussi des jeunes, qu'on fasse des assurances dépendance correctes, voilà, pour que les gens aient envie d'investir dans cet avenir-là et ne gardent pas leur argent en pensant qu'on va plus leur donner des systèmes de protection sociale corrects. Voilà, donc je pense qu'on pourrait vraiment construire un très beau projet de changement de modèle, susceptible d'enthousiasmer les citoyens et notamment les plus jeunes. Alors après, opérationnellement, on voit bien ce qu'il faut faire. Hein. On voit que c'est un projet qui peut nous permettre de réconcilier la question écologique, économique, sociale, que c'est un projet qui va permettre de créer des emplois, peut-être de changer le travail. Alors, il faut qu'il existe un budget européen conséquent, ça je crois que c'est une des premières choses à faire. Il faut qu'on reprenne l'idée de réduire les disparités entre les différentes régions de l'Europe, comme on a fait lorsque l'Espagne et le Portugal sont rentrés. Il faut qu'on accepte de refaire des transferts massifs, on ne l'a pas fait, et c'est pour ça que ça ne va absolument pas et qu'on a tous ces problèmes de travailleurs détachés qu'on n'arrive pas à régler. Et puis, je pense que l'emploi ne doit pas être la seule préoccupation. Hein. Il faut aussi donner un coup d'arrêt à la dégradation des conditions de travail. Et donc, outre la refonte de la directive sur le travail détaché, le socle de droit, je pense qu'il faudrait lancer un véritable programme. Ça avait été fait à la fin des années 80, un programme d'amélioration des conditions de travail avec un organe chargé du respect des normes sociales, des inspecteurs du travail européens. Et peut-être, je ne sais pas si c'est possible, il faudrait vérifier, hein, mais que tous les pays européens signent les conventions de l'OIT, c'est la moindre des choses, et peut-être qu'il y ait une signature collective de l'Europe sur les conventions de l'OIT. Voilà, en conclusion, je voudrais dire, il y a aussi un très beau livre de Robert Salet hein, qui s'appelle Le viol d'Europe, que je trouve très très intéressant. Il a rappelé, il a mis le projecteur sur un moment historique que moi j'avais complètement oublié. Hein. Il a rappelé combien l'occasion avait été manquée en 1948 au congrès de la Haye de construire une véritable Europe politique qui aurait été d'abord une Europe des droits des travailleurs. Et voilà, qu'est-ce qu'on avait proposé à cette époque-là ? C'est de construire l'Europe des travailleurs sur la participation des travailleurs à la gestion des entreprises. Il me semble qu'on peut reprendre ce sujet. Vous savez que c'est quelque chose qui est bien développé en Allemagne, dans les pays nordiques. Pourquoi ne pas faire de cette participation des travailleurs à la gestion des entreprises un des objectifs de cette Europe sociale ? Ça voudrait dire approfondissement de la démocratie dans l'économie et dans les entreprises, à côté d'une démocratisation de nos institutions avec le déploiement d'une Europe fédérale respectueuse de la diversité et de la variété des États membres. Merci beaucoup.
Merci Dominique. Je vais maintenant passer la parole à Audrey Pulfar.
Merci Aurore, mais mon propos va être assez complémentaire de celui de Dominique. Tu ne seras pas étonné de cela, Dominique. Une divergence, je commence mal la soirée hein, avec Yanis Varoufakis, parce que pour avoir quitté le métier que j'aimais tant pour me mettre avec un peu plus d'intensité au service de la lutte contre l'extrême droite et pour être de ceux qui considèrent dans ce pays qu'on ne peut pas parler de Marine Le Pen et du Front National comme d'un parti comme les autres, parce que ce n'est pas un parti comme les autres, et Marine Le Pen, ou Marie-Maréchal Le Pen, même si elle est partie, ne sont pas des dirigeants politiques comme les autres. Il est toujours dangereux, me semble-t-il, d'associer comme s'ils étaient finalement des dirigeants politiques identiques avec des visions différentes de la société, Emmanuel Macron ou un autre, avec le Front National, même si les politiques menées par Emmanuel Macron aujourd'hui et son gouvernement peuvent évidemment jeter un peu plus d'électeurs français dans les bras du Front National. En revanche, il y a sans doute une coproduction politique aujourd'hui entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, et sans doute l'un a besoin de l'autre et l'autre a besoin d'un l'un. Ça, c'était une parenthèse de citoyenne et non de présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Merci. Alors, en tant que présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que ce qu'il y a de très pratique avec toutes les questions liées à la dégradation de l'environnement, à l'effondrement de la biodiversité ou encore au changement climatique, celui-ci influant aussi sur celle-là, c'est que ces questions-là sont tellement cruciales, elles sont tellement urgentes, elles sont tellement prégnantes, qu'elles nous obligent de toute façon, et c'est pour ça que je disais qu'on se rejoint, elles nous obligent de toute façon à repenser, à la fois au niveau national, mais au niveau européen, elles nous obligent à repenser le travail, nos différents systèmes de valeurs, notamment économiques, les échanges, la mobilité, la production industrielle, les transports de marchandises, l'agriculture, l'alimentation, la fiscalité ou encore l'investissement public. Tous ces sujets pour lesquels nous n'avons pas, même si la mode en ce moment est plutôt de réclamer la mise en berne, voire la mise à bas du drapeau européen, pour lesquels nous n'avons pas besoin de moins d'Europe, mais nous semble-t-il de plus d'Europe. Évidemment, une autre Europe que celle que nous vivons aujourd'hui, mais une Europe plus sociale, plus avec une plus grande harmonisation fiscale, une Europe plus respectueuse de la santé publique, plus respectueuse de l'environnement, une Europe dans laquelle la finance donnerait d'elle-même une autre image que celle de ce chien fou courant toujours plus vite vers la catastrophe et vers non pas sa perte à lui, parce que lui s'en sort toujours, mais notre perte à tous. Alors comme tous ceux qui n'entendent pas se contenter de pester contre la marche du monde le matin devant leur radio, la Fondation pour la Nature et l'Homme essaie modestement, très modestement, de porter des propositions et de contribuer à l'amélioration justement de cette marche du monde. Nous portons des propositions ambitieuses, par exemple pour une réorientation de la politique agricole commune vers une politique plus respectueuse de l'environnement, une agriculture non seulement plus respectueuse de ceux qui en vivent ou qui tentent d'en survivre, je pense aux paysans, je pense aux agriculteurs, mais plus respectueuse aussi de ceux qui la consomment, c'est-à-dire nous tous. Alors je pourrais vous parler de l'énergie déployée en ce moment même par nos équipes et par une cinquantaine d'ONG et d'associations qui, avec nous, se battent pour que les états généraux de l'alimentation soient vraiment des états généraux de l'alimentation et pas simplement des états généraux de l'agriculture, pour qu'ils soient un espace de réelle concertation, de réelle construction d'un autre modèle agricole, pour qu'on sorte de l'agriculture industrielle et des dégâts qu'elle peut commettre, et pour qu'on laisse une place plus grande à une alimentation encore une fois plus respectueuse dans l'environnement, moins destructrice de la biodiversité, qui expose moins nos agriculteurs et nos agricultures au risque de nouvelles maladies ou de nouveaux fléaux. Et nous nous battons également pour que chacun de nous, chaque citoyen européen, ait accès à une alimentation de qualité, parce que nous considérons qu'il n'est pas acceptable qu'on puisse imaginer que ceux qui en ont les moyens aient une alimentation de qualité, et ceux qui n'en ont pas les moyens, une alimentation de moindre qualité et qui soit néfaste non seulement pour leur santé, mais pour la santé publique et l'environnement en général. Alors, puisque l'intitulé de notre rencontre est Sauvons l'Europe, nous pourrions dire sauvons les agriculteurs européens, sauvons un autre type d'alimentation, sauvons la santé publique et faisons en sorte, nous en avons les moyens, que, comme je vous le disais, chaque citoyen européen ait accès à une alimentation de qualité. Alors, quand on parle des moyens, je voudrais juste signaler par parenthèse que la politique agricole commune, dont nous demandons la réorientation, qui coûte 9 milliards d'euros par an à la France, ce n'est pas grand-chose finalement quand on pense au coût du traitement des eaux polluées par des nitrates et par des pesticides, qui coûtent chaque année à la France 50 milliards d'euros, c'est-à-dire l'équivalent non seulement du budget de notre éducation nationale, mais l'équivalent de l'ensemble du budget de la PAC. Nous portons également le fer de façon déterminée contre les traités dits de nouvelle génération, que nous considérons comme une forme d'attentat contre la démocratie, des traités dont le citoyen européen ne connaît ni la portée ni le rythme des négociations et contre lesquels manifestement, pardon à messieurs les députés qui sont autour de cette table, ni la voix des députés nationaux, ni la voix des parlementaires européens ne pèse beaucoup. Et ça, c'est quand même une petite préoccupation. Mais le CETA est entré en application en France avant même que le Parlement français ne se prononce dessus. Et nous n'avons aucune garantie sur le fait que même si le Parlement français le rejetait et que d'autres parlements européens, enfin d'États membres le rejetaient, ce rejet soit suspensif de l'application du CETA. Alors nous pensons que le CETA, comme tous ses frères et sœurs, JEFTA, TAFTA et compagnie, sont porteurs de nouvelles menaces sur l'environnement, qu'ils entérinent les processus industriels déjà à l'œuvre qui aggravent le réchauffement climatique, qu'ils abaissent les normes sociales, qu'ils fragilisent les populations, qu'ils amplifient les effets de l'anthropocène, à moins, cher Alain Grandjean qui est au premier rang de ces conférences, qu'il amplifie la capitalocène, il y a aussi toute une série de travaux sur la question de la dénomination de ce que nous vivons. Est-ce qu'il s'agit d'une anthropocène ou est-ce qu'il s'agit des effets du capitalisme sur notre environnement et sur notre patrimoine mondial commun qui est la Terre? Avec un peu plus de temps, je pourrais aussi vous parler de nos propositions concernant une révision des normes prudentielles et des règles d'actualisation, la fixation de la valeur actuelle, afin que le risque climat soit de façon beaucoup plus déterminée et déterminante pris en compte dans l'évaluation des investissements. Le risque climat en trois étages en quelque sorte. Un premier étage qui serait sa matérialisation effective, c'est-à-dire l'impact des événements climatiques extrêmes sur la valeur d'un investissement. Le risque climat en ce qu'il peut mobiliser des communautés, mobiliser des populations en class action contre une entreprise, contre un groupe, contre un État qui aurait, selon ceux qui participent à cette class action, manqué à ses obligations en matière de protection des populations contre le risque climatique. Et puis le risque climat, c'est aussi, quand il doit être pris en compte dans l'évaluation d'un investissement, c'est aussi la nécessaire adaptation de ceux qui portent cet investissement à d'éventuelles nouvelles réglementations. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut mettre en œuvre pour ce qui concerne la finance, puisqu'elle est tellement puissante, puisqu'elle outrepasse tellement les prérogatives des citoyens et des gouvernements et des dirigeants politiques, il faut à la fois inciter cette finance à se porter vers des investissements moins destructeurs pour l'environnement et à la fois la contraindre, par exemple, à plus de transparence avec une application rigoureuse de l'article 173 de la loi sur la transition écologique et la croissance verte. Et si on pouvait même faire de cet article 173 un exemple pour nos partenaires européens, eh bien, nous en serions ravis. Alain, comme tu es là, je vais te citer précisément, hein, parce que je ne voudrais pas être prise en défaut quand tu dis par exemple que la finance n'est pas qu'un voile sur l'économie et qu'au niveau des entreprises, la comptabilité n'est pas une technique auxiliaire qui se contente d'enregistrer les chiffres permettant de mesurer l'efficacité d'une entreprise, mais qu'elle modèle largement le capitalisme, les décisions des actionnaires et la représentation des entreprises qui le façonnent. Nous réclamons par ailleurs la fixation d'un prix carbone bien plus dissuasif, couplé à la fixation de normes, d'agendas qui permettent d'équilibrer pour le citoyen et pour les finances publiques l'impact du prix de l'énergie. Mais au-delà de toutes ces solutions, au-delà de toutes ces actions concrètes qui s'ajoutent à des milliers dans le monde entier, des milliers d'actions, de groupes, d'entreprises, d'act-up, ou bien les départements RSE des grandes entreprises, les actions d'individus, les actions d'associations, les actions de quartiers entiers, les actions de communautés internationales qui mettent en œuvre des milliers de petites solutions pour améliorer la situation. Au-delà de tout cela, même si nous additionnons toutes ces actions, nous ne pourrons pas faire l'économie d'une véritable transformation de nos modes de vie. Et c'est là que se situe l'essentiel des efforts à mettre en œuvre pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous responsables de la situation dans laquelle nous sommes, alors certains sont plus responsables que d'autres. Dans un monde où aujourd'hui, alors qu'on nous parlait d'une amélioration de la situation, 800 millions de personnes tous les jours ont faim, 3 milliards de personnes vivent avec moins de 2 euros par jour, puisqu'on prend souvent la mesure d'1 euro par jour. Mais entre 1 euro et 2 euros, il n'y a pas une grande différence pour nous qui sommes dans cette salle, mais il y a juste 2 milliards d'individus en plus. 1 milliard vivent avec 1 euro par jour, 3 milliards vivent avec 2 euros par jour. Dans un monde où 10% des plus riches sur l'ensemble de la planète produisent 50% des gaz à effet de serre, mais que 50% des plus pauvres produisent 10% des gaz à effet de serre. Dans un monde, et je ne vais pas vous assommer de chiffres, où une empreinte carbone peut varier du simple au décuple entre les pays les plus pauvres et les pays les plus riches étant ceux qui polluent le plus, nous ne pouvons pas nous contenter de faire la leçon et de dire qu'il faut mettre en place telle ou telle petite solution qui va améliorer la situation. Il nous faut absolument reconsidérer nos modes de vie pour inventer, pour une réinvention, comme dirait Pierre Fournier, déjà à la fin des années 60, début des années 70, inventait le mot d'écologie. Il nous faut une réinvention de nos modes de vie, moins prédateurs, plus équitables, qui soit plus dédié à la lutte contre les inégalités. Parce que si on considère qu'on peut régler les questions liées au réchauffement climatique sans avoir au préalable réglé les questions d'inégalité, on se trompe, on fait fausse route. Si on considère qu'on peut continuer business as usual dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, malgré tous les avertissements qui sont allumés et malgré le fait que même si l'accord de Paris était appliqué dans son intégralité, même si tous les pays signataires de l'accord de Paris remplissaient leurs engagements, nous serions quand même à un scénario de réchauffement de 3 degrés de la planète d'ici 2100 et non de 2 degrés. Eh bien, si nous pensons que nous pouvons continuer à titre individuel à mener notre vie, nos échanges, notre consommation de la même façon, nous nous trompons. Ce que nous vous proposons, et j'en termine là, ce n'est pas moins de croissance, c'est une autre croissance. Ce n'est pas avoir moins, c'est avoir mieux. Dans un monde où nous irions tous mieux. C'est peut-être moins de produits manufacturés qui remplissent des existences de façon très partielle, hein, parce qu'une existence vide, vous pouvez acheter tous les produits manufacturés que vous voulez, ça ne la remplira pas. Mais c'est plus d'échanges, plus d'idées, plus de temps consacré à la recherche de la beauté au sens poétique du terme. Et si vous pensez que tout cela est utopiste, si vous pensez que tout cela relève du discours peace and love, moi je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est que le cynisme, l'égoïsme, le chacun pour soi, la loi du plus fort, on a déjà essayé, ça ne marche pas. Ça fait, remontant à la révolution industrielle, ça fait 150 ans qu'on essaie, ça ne marche pas, et si ça marchait, nous ne serions pas là ce soir. Donc on peut peut-être essayer autre chose, on peut peut-être essayer de ne pas renoncer au meilleur de ce qu'il y a en nous. C'est une Angela, pas Angela Merkel, mais Angela Davis, qui continue le combat aux États-Unis, dans le monde, et qui nous dit « Ne renoncez ni à votre détermination, ni à votre obstination, ni à votre patience. » Merci beaucoup.
Merci beaucoup Audrey. On va passer maintenant à Gaëlle Giraud, économiste en chef de l'AFD, auteur de nombreux livres dont L'illusion financière et le facteur 12 qui a été écrit avec Cécile Renoir et dont je vous recommande la lecture.
Merci beaucoup. Le lien avec ce qui vient d'être dit par Audrey est assez clair. Moi je voudrais partir de la question qui est comment est-ce qu'on finance la transition écologique dont vous avez compris qu'elle est impérative pour la survie de la dignité, de l'Europe, de l'humanité. Et le paradoxe, c'est que c'est pas qu'on ait besoin d'un deuxième Einstein pour mettre en œuvre la transition. Techniquement, en gros, on sait faire l'essentiel. C'est pas non plus qu'on n'ait pas d'argent, parce qu'il n'y a jamais eu autant d'argent et de capital sur la planète qu'aujourd'hui, grâce aux politiques d'assouplissement monétaire quantitatif des banques centrales. Donc il y a énormément d'argent sur la planète. La difficulté, le paradoxe, c'est de trouver la tuyauterie qui permet d'emmener cet argent au bon endroit et de le sortir du trou noir des marchés financiers dans lequel il est absorbé et il alimente des bulles spéculatives. Alors pour essayer de faire ça, il y a un premier point sur lequel il faut réfléchir, travailler, discuter, c'est l'indépendance de la Banque Centrale Européenne. Et là, vous sentez tout de suite que c'est un endroit absolument crucial dans la construction de l'Europe. Cette indépendance, elle a une origine historique, antidémocratique, elle est liée au fond à la fascination de la Bundesbank, qui, entre 1945 et 1949, est imposée en fait à l'Allemagne de l'Ouest par les Alliés comme indépendante du pouvoir politique parce qu'on se méfie de l'aptitude des Allemands à réutiliser la planche à billets pour financer un effort de guerre. Et donc à l'époque, c'est un sentiment en fait de défiance à l'égard de la démocratie allemande qui justifie l'indépendance de la Bouba, de la Bundesbank. Malheureusement, les libéraux européens et avec eux un certain nombre de socialistes, en particulier de socialistes français, qui se sont... D'accord. Vous m'entendez là ? D'accord, ok. Ça va, tout le monde m'entend là ?
C'est une recommandation claire.
Merci. Donc malheureusement, les libéraux européens et un certain nombre de socialistes qui se sont convertis, disons, à l'économie de marché au milieu des années 80 et qui ont été les grands architectes du néolibéralisme international à travers le FMI, l'OMC, etc., tout cela, fascinés par la Bundesbank, ont imposé l'indépendance de la Banque Centrale Européenne. Avec l'idée qu'elle doit pouvoir mener une politique monétaire indépendante de la politique budgétaire menée par les États. En tant qu'économiste, je ne connais aucun fondement analytique à cette indépendance. La seule explication, c'est la prétendue neutralité de la monnaie, c'est-à-dire l'idée que la quantité de monnaie en circulation n'a aucune importance, elle est un pur voile, comme le disait Alain dans la citation reprise par Audrey. Or, ceci est faux. C'est complètement faux, c'est empiriquement invalidé, tous les jours, tout le monde le sait, tous les économistes le savent. Donc il n'y a aucun fondement rigoureux, sérieux, à l'indépendance de la Banque Centrale Européenne. Qui plus est, elle a comme mandat de lutter contre l'inflation, comme priorité absolue, et elle est la seule banque centrale au monde à avoir ce seul mandat. Même la Fed aux États-Unis a un double mandat de lutter contre l'inflation et de promouvoir la croissance. La BCE n'a même pas ce mandat-là. Donc il est urgent de réformer la BCE et de lui permettre, troisièmement, de faire quoi ? De financer les efforts d'investissement colossaux dont nous avons besoin pour la transition en Europe. Et ça suppose de revenir sur un troisième tabou, qui est l'interdiction qui est faite à la BCE aujourd'hui de financer directement les dettes publiques, au motif que les États ne savent pas utiliser correctement l'argent qu'on leur prêterait. Ils le feraient beaucoup plus mal que les banques privées, dont on a bien vu depuis 20 ans qu'elles utilisent très intelligemment l'argent que leur prête ou que leur donne la BCE. Alors, qu'est-ce que pourrait faire la BCE si on révisait son statut, son mandat ? Elle pourrait par exemple mettre en œuvre un quantitative easing vert, c'est-à-dire une politique d'assouplissement monétaire en faveur des investissements verts. Elle pourrait aussi faire un quantitative easing for people, comme on dit en anglais, donc c'est-à-dire créer de la monnaie non plus simplement à l'usage des banques immédiates, mais aussi à l'usage des ménages, des personnes. Et ça, c'est un moyen très efficace. On peut discuter des détails, mais c'est un moyen très efficace de sortir de la trappe déflationniste dans laquelle un certain nombre de nos pays, en particulier en Europe du Sud, sont aujourd'hui prisonniers. Le fait qu'on n'ait pas fait tout ça et qu'on ait accordé le statut que vous connaissez à la BCE fait qu'en réalité, en Europe, on a privatisé le pouvoir de création monétaire. Les institutions qui créent de la monnaie, celles que vous avez dans votre poche, dans votre portefeuille et sur votre compte en banque, ce sont les banques privées qui créent de la monnaie tous les jours. Est-ce qu'elles sont contrôlées par un pouvoir démocratique pour le faire ? La réponse est non. Il n'y a plus de pouvoir démocratique pour contrôler la manière dont les banques privées créent de la monnaie. Officiellement, elles ont un contrôle qui est exercé par la BCE. Mais justement, comme la BCE, à cause de l'indépendance de la Banque centrale vis-à-vis du politique, ne rend pas compte à une instance démocratique de la manière dont elle régule les banques, finalement, il n'y a pas d'instance démocratique qui régule les banques. Comment pourrait-on réguler les banques plus intelligemment qu'on ne le fait aujourd'hui ? Premièrement, il faudrait les séparer véritablement. Véritablement séparer les banques d'investissement, qui jouent sur les marchés financiers, des banques de dépôt et de crédit, qui, elles, financent l'économie réelle. Alors vous savez qu'en France, on a passé une loi, la loi Moscovici-Berger, qui prétend qu'elle sépare, mais qui ne sépare pas. Donc c'est une nouvelle activité législative, c'est comme le Canada Dry. Si vous faites une loi qui dit qu'elle fait quelque chose et qui ne le fait pas. Donc, c'est très original comme création juridique. Donc maintenant, il faut le faire vraiment. Il y a juste un paragraphe à changer dans la loi Moscovici. Et avec ça, vous séparez vraiment les banques. Et au passage, vous leur retirez un pouvoir de chantage colossal sur le pouvoir politique, qui paralyse complètement la démocratie européenne. Pourquoi ? Parce que le bilan de BNP Paribas, c'est 2000 milliards d'euros. C'est le PIB français. Donc vous imaginez bien que lorsque le PDG de BNP va à l'Élysée, qui parle au président de la République, d'abord il le toise gentiment parce qu'il lui dit « tu ne pèses pas plus lourd que moi ». Et ensuite il lui dit « écoute, si tu fais quelque chose qui me déplaît, en fait ma banque va faire faillite et tu vas couler avec moi ». Vous savez, c'est le problème du maître nageur qui coule avec le noyé. Et donc le président est obligé d'écouter ce que lui dit le PDG de BNP Paribas. Et vous savez très bien que Michel Pébrot a été le visiteur du soir de Sarko pendant plusieurs mois, à la fin du règne de Sarkozy. Et donc il y a un premier élément fondamental qui est de couper les ailes du chantage bancaire et pour ça de séparer les banques. Et donc d'enlever l'épée de Damoclès qui pèse sur nous, qui est la faillite bancaire, qui mettrait en péril nos comptes de dépôt. Parce que vous savez très bien, ou si vous ne savez pas, je vous l'annonce, que l'État français est bien incapable de mettre en œuvre la loi de garantie des dépôts jusqu'à 100 000 euros par personne et par compte. L'État français en est incapable. Donc si on a une grosse banque qui fait faillite, nous sommes en très très grosses difficultés. Et c'est la raison pour laquelle l'État ne peut pas se permettre de laisser une banque faire faillite et donc est obligé de faire absolument tout ce qu'elle veut pour éviter la faillite. Vous voyez, c'est ce chantage-là, c'est à ce chantage-là qu'il faut mettre fin. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il y a des tas de réformes comptables, donc Audrey en a parlé, c'est très bien. Il y a des tas de réformes comptables à faire sur les banques. Il y a des tas de réformes à faire également sur ce qu'on appelle le secteur bancaire de l'ombre, le shadow banking. Parce que les banquiers ont bien compris depuis 2008 que tôt ou tard, la pression populaire sera telle que les pouvoirs publics seront obligés de réguler le secteur bancaire, ce que nous n'avons pas encore fait. Mais du coup, les banques ont déjà commencé à se métamorphoser elles-mêmes en animaux nouveaux, dans une nouvelle zoologie, qui sont les institutions financières non bancaires qui ne sont pas soumises à la réglementation bancaire, mais qui, au fond, font un métier très très proche de celui des banques et permettent aux banques de continuer à faire leur métier en dehors de toute réglementation. Donc le shadow banking est également un énorme sujet. Troisièmement, il y a également un autre objet bizarre qu'il faut réformer de toute urgence, c'est ce qu'on appelle l'Union bancaire européenne, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une construction bureaucratique destinée à nous protéger en cas de faillite et qui, prétendument, garantit le fait que jamais aucun contribuable ne sera de nouveau sollicité pour sauver une banque. Moi, j'ai fait un rapport pour le Parlement européen, pour Klaus Welle, en 2015, pour analyser l'Union bancaire européenne. La conclusion des rapports, c'était « l'Union bancaire européenne ne protège personne ». Et la preuve de ceci, c'est ce qui s'est passé à Noël. Vous avez peut-être vu que Monte dei Paschi di Siena, qui était la troisième banque italienne, la plus ancienne banque du monde, hein, qui date du 15e siècle, a fait faillite. Ça faisait plusieurs années qu'elle était maintenue hors de l'eau à bout de bras par la BCE parce que Mario Draghi est italien. Monte dei Paschi di Siena a fait faillite. Et qui est-ce qui va payer la note? C'est le contribuable italien. L'union bancaire n'a même pas été mobilisée pour dépenser un centime pour sauver cette banque italienne. Autrement dit, cette union bancaire, c'est une construction de papier qui sert juste à faire taire les journalistes en leur disant, écoutez, on a réglé le problème, on a construit une union bancaire, tout ça est sous contrôle. Mais une banque comme Monte dei Paschi, qui est beaucoup plus petite que BNP, fait faillite. Et déjà là, on n'est plus capable de sauver le contribuable italien. Un dernier point fondamental, et après je vais conclure, c'est le secteur bancaire européen aujourd'hui est en très très grande difficulté. Le FMI lui-même reconnaît que 40% des banques européennes sont non viables. Une grande partie d'entre elles, quoi qu'elles disent exactement le contraire, sont assez proches de la faillite. Hein, pas forcément en France, mais en Allemagne, par exemple. Hein, beaucoup de Landesbanken allemandes sont en très grande difficulté. On estime qu'il y a à peu près 300 milliards de ce qu'on appelle des non-performing loans, dans le jargon euphémisé bureaucratique européen, c'est-à-dire des actifs pourris, pour parler en français. 300 milliards d'actifs pourris dans les bilans bancaires européens, dont les banques ne savent pas quoi faire. Et ça, ça grève les bilans des banques, ça les empêche de prêter à l'économie réelle, en particulier de financer la transition. Et ça, c'est un énorme sujet qu'il faut absolument pouvoir adresser de toute urgence. Alors, si je prends un tout petit peu de recul, je dis au fond, la zone euro telle qu'elle a été construite, elle participe d'une privatisation de la monnaie, mais pas simplement de la monnaie. Alors déjà, pour la monnaie, c'est très grave, mais... Et là, je fais référence à ce qu'a dit Dominique il y a un instant. Si on pense un tout petit peu à Polanyi, aux trois biens essentiels, aux trois catégories de biens essentiels dont Polanyi nous a avertis dès les années 30 qu'il fallait surtout pas essayer de les privatiser, il y en a trois, c'est la monnaie, je viens d'en parler, le travail et la terre. Et la terre, évidemment, les ressources naturelles, et ça, c'est Audrey qui en a parlé beaucoup. Le travail, c'était Dominique. Donc vous voyez que, en fait, la vraie alternative, à mon avis, la vraie réforme de l'Europe, c'est une reconstruction politique dont la gauche, en particulier la gauche française, a absolument besoin, autour de qu'est-ce qu'on a comme projet alternatif à la privatisation des trois catégories de biens essentiels qui est orchestrée aujourd'hui par les néolibéraux européens. Quelle est la catégorie alternative? Et moi, la proposition que je fais, c'est la catégorie des biens communs. Parce que si vous dites que ce n'est pas un bien privé, la monnaie, le travail, la terre, vous n'allez pas me dire non plus que ce sont des biens purement publics, ça supposerait, disons, une absorption de la totalité de l'espace social dans la sphère publique. Mais ça, ça a un nom, c'est le totalitarisme public, on connaît, bureaucratique. C'est autre chose. Si vous dites que ce sont des communs, ça veut dire que ce sont des universels que nous devons partager entre nous, dont il faut prendre soin, ça c'est le cœur de Dominique, et pour lesquels il faut construire des institutions spécifiques qui sont encore à inventer. Voilà. Ça, je crois que c'est un vrai projet politique pour la gauche, dans lequel la question de l'utilisation de la monnaie comme commun peut être posée à l'intérieur d'un horizon politique qui permettrait vraiment de renouveler le débat. Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Gaël. Décidément, vous faites les transitions tout seul en fait. C'est assez fantastique. Donc on va parler démocratie, politique, institution maintenant avec une séquence plus politique que Yannick Jadot va débuter.
Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je crois qu'on a tous fait de la politique là. Et je ne doute pas d'ailleurs que nous réformerons l'Europe si chacun où on est, on s'y met et qu'on arrive, y compris parce que sur cet agenda que nous partageons ici, on est quand même minoritaire. Donc je crois que si on s'y met ensemble, on a une petite chance. Si on y va séparé, nous n'avons aucune chance. Et pour ma part, Guillaume le sait, les victoires que nous gagnons parfois à l'échelle européenne sont des victoires qui s'articulent aussi avec la société civile. Que ce soit, il y a quelques années... l'accord ACTA sur la contrefaçon, on l'a gagné avec les paysans, on l'a gagné avec la quadrature du net et tous ces réseaux, cette mobilisation internationale, ou avec les associations qui se battent pour les génériques. Quand on a gagné au Parlement sur la pêche en eau profonde, c'est parce qu'il y avait eu des mobilisations. Mais il y a des mobilisations et il faut gagner après dans la loi, au Parlement, dans celui-là et dans d'autres. Mais c'est vrai qu'on ne gagne pas sur tout, et le sujet du CETA, en tout cas nous l'avons perdu, On avait, je crois, très bien travaillé sur le TAFTA, une mobilisation extraordinaire, et des associations, et des collectivités, et des parlements, et des parlementaires, ou certains parlementaires. Malheureusement, avec le CETA, on n'a pas gagné, même si je crois que le débat est sur la table. On a eu un petit souci aussi, hein, c'est que, y compris pour les Français, les Canadiens ne sont pas dangereux. Les Américains sont méchants. C'est dans leur ADN. Les Canadiens, ils sont costauds. Ils mettent des chemises à carreaux rouges. Ils coupent du bois, mais avec des haches, donc ça ne fait pas trop de dégâts. Et ils parlent avec un accent rigolo. Et donc, mobiliser contre le CETA, ce n'est pas toujours évident de montrer que c'est d'abord aujourd'hui les sables bitumineux, les OGM et toutes les multinationales nord-américaines. Revenons sur l'Europe. Je crois que nous devons faire le constat que l'Europe est de retour et que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, l'Europe est de retour parce que ce soit sur le terrorisme, que ce soit sur la mondialisation, que ce soit sur la fiscalité et le travail, le débat européen est de nouveau là. Et l'Europe de nouveau apparaît comme une impérieuse nécessité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une défiance extraordinaire vis-à-vis de l'Europe. Le néolibéralisme comme modèle, l'austérité comme solution et la technocratie comme méthode, évidemment, ça rend l'Union et ses institutions assez détestables. Mais on le doit, ce projet européen, on le doit à nous-mêmes. Et ça a déjà été dit, on le doit, je crois, profondément à notre jeunesse. Moi, je n'imagine pas que la jeunesse européenne se replie ou sombre dans les marais putrides de la xénophobie ou dans les nostalgies régressives du nationalisme. Quand il y a aujourd'hui une alliance rouge-brun pour brûler le drapeau européen à l'Assemblée nationale, je crois que nous avons collectivement une responsabilité de se réapproprier l'espace politique européen. Il est imparfait, il est incomplet, mais l'Europe, ce n'est pas un traité. L'Europe, ce n'est pas une prison. L'Europe, c'est d'abord un espace démocratique avec des majorités démocratiques, et l'Europe, aujourd'hui, est beaucoup plus une maison vide qu'une prison. Et ce qui est intéressant dans le débat qui naît aujourd'hui, et celui qu'il faut éviter, moi, mon principal sujet, c'est pas de débattre avec les anti-européens. C'est de débattre au sein de ceux qui se prétendent pro-européens. Parce que l'échec de l'Europe aujourd'hui n'est pas le compromis foireux entre les anti-européens et les pro-européens. L'échec aujourd'hui, c'est celui de ceux qui se prétendent pro-européens. De Sarkozy à Hollande, de Juncker à Barroso, tous ont fait de magnifiques discours sur l'Europe. Mais tous, eux, ont été des euros fainéants, incapables de construire des souverainetés partagées. Des euros lâches, qui ont refoulé les réfugiés et les migrants. Des euros sadiques avec les Grecs, et avec beaucoup d'autres. Ce sont ces pro-européens-là qui ont déroulé le tapis rouge au nationalisme et aux extrêmes droites. Et quand on regarde la question, par exemple, des accords de libre-échange ou de la mondialisation, ces pro-européens qui disent le libre-échange, le libéralisme, c'est la société ouverte, c'est le libéralisme politique. Mais depuis très longtemps, le principal argument qu'ils utilisent, qui est de dire finalement l'échange ou la circulation sans entrave des biens, des services et des investissements, à la fin c'est la circulation des valeurs, c'est la circulation des droits. C'est la circulation des libertés publiques, c'est la circulation de la démocratie. Mais ça fait longtemps que ça n'est plus le cas. Ça fait longtemps, au contraire. Aujourd'hui, quand vous mettez en concurrence des salariés, quand vous mettez en concurrence des territoires, quand vous mettez en concurrence des choix de société, parce que le CETA n'est pas un accord de commerce classique, c'est une négociation sur j'échange de l'environnement contre des services publics. J'échange la protection des données contre une capacité à faire des choix de société. Et bien, quand on produit cette société-là, avec le libéralisme, on produit de la défiance, on produit du doute, on produit du rejet, on produit de la haine, et à la fin, on produit toujours du nationalisme. Et donc, en cela, toutes ces politiques, toute cette mondialisation, qui est deux fois plus grosse que la planète, elle produit elle-même le nationalisme. Et on voit deux directions qui ne sont pas forcément incompatibles. C'est d'un côté le fantasme de l'autorité qui va remettre tout, l'église au milieu du village. On est chez les jésuites, on peut faire une référence quand même. On remet l'église au milieu du village avec de l'autorité et avec des frontières. Ça, c'est la démocrature ou la dictature. L'autre dérive, c'est la post-démocratie. C'est ce qu'incarne Emmanuel Macron. Au fond, c'est le débat politique est d'abord un débat de communication. On me dit toujours, tous les matins, on nous dit « Macron, il est fort parce qu'il applique son programme ». Souvenez-vous, son programme, il est sorti 3 semaines avant le premier tour. Donc, c'est pas le sujet, c'est la communication. Et la démocrature et la post-démocratie ne sont pas forcément des choix exclusifs. Regardez l'Autriche. L'Autriche, en ce moment, c'est Kurz, 31 ans, plus jeune que notre président, à fond sur la com, qui va probablement, potentiellement diriger avec l'extrême droite en Autriche. C'est la post-démocratie et les dérives de dictature ou totalitaire ou de démocrature qui vont à un moment s'agencer pour organiser les sociétés. Donc, il y a un enjeu extraordinaire à l'échelle européenne. Parce que nos pays ont survécu à tous les régimes politiques. Parce qu'ils sont vieux. Parce qu'à un moment donné, il y a eu les frontières. Et ils ont eu des démocraties, et il y a eu des périodes de dictature, et il y a eu des démocraties. L'Europe, c'est pas ça. L'Europe, ça n'est pas un État. L'Europe, c'est une communauté de droits. C'est une communauté de normes, de choix de société à laquelle nous consentissons librement. Et donc, si l'Europe, à travers cette mondialisation, transfère notre souveraineté démocratique, la définition des choix de société du droit à des firmes multinationales, l'Europe n'a plus aucun sens. L'essence même du projet européen, de construire ensemble des règles de notre vivre ensemble. Si ça n'est plus, si c'est les multinationales qui décident, il n'y a plus de raison d'avoir un pacte européen. Donc c'est un enjeu régulé. L'Europe qui devient l'outil de régulation publique de la mondialisation, c'est un enjeu majeur de démocratie. Deuxième point, sur l'euro. Oui, l'euro, ça ne marche pas aujourd'hui dans la résolution des crises. La BCE n'est pas indépendante, tu as raison. De temps en temps, le fait qu'elle soit indépendante peut être un problème. De temps en temps, dernièrement, quelle est son indépendance vis-à-vis de l'Allemagne, ça nous a plutôt aidé. Il faut le dire aussi. Mais ce qui manque, me semble-t-il, c'est un droit à l'euro. Parce qu'on est dans une situation où Schäuble a failli décider seul de l'appartenance des Grecs à une communauté monétaire. Et une monnaie, ça n'est pas que de l'argent. L'euro, c'est pas qu'une monnaie. C'est aussi un vecteur social, c'est aussi un vecteur culturel, c'est aussi un vecteur politique. Et moi, je crois qu'il faut construire un droit à l'euro pour que, dans notre constitution européenne future, les citoyens puissent s'organiser au-delà d'un parlement de la zone euro, puissent s'organiser pour contester les choix de l'eurogroupe. Il me semble indispensable que l'euro soit un droit citoyen. Dernier point. On est dans un moment où la mondialisation, notamment, perturbe tous les repères. Il y a une incroyable opacité des processus de décision, des responsabilités. Il y a une forme d'extraterritorialisation des décisions, même d'aterritorialisation des décisions économiques. Et donc, du coup, forcément, ça génère, quand vous avez une telle perte de repères, ça génère tous les replis. Et nous n'avons pas répondu à ce besoin-là. Chacune, chacun, nous avons un besoin d'appartenance. Chacune, chacun, nous avons besoin d'appartenir à une communauté qui n'est pas que la communauté nationale française, qui est des communautés de travail, des communautés d'amis, des communautés d'engagement, des communautés locales. Et s'il doit y avoir, moi je défends l'idée que la moitié, au moins, des 60 milliards d'euros dépensés tous les mois par la Banque Centrale Européenne pour acheter de la dette. La Banque Centrale rachèterait des plans d'investissement de la Banque Européenne d'Investissement ou des banques nationales d'investissement, on aurait un outil extraordinaire pour remettre de l'huile et de la solidarité au sein de l'Union Européenne. Et pour le coup, et je conclue là-dessus, on pourrait répondre par les territoires à l'inquiétude globale. Quand on fait de la transition écologique, on fait de la réappropriation locale de l'énergie, de l'agriculture, de l'alimentation, du transport, de l'ensemble de ce qui organise une bonne partie de notre vie. Donc on retrouve le contrôle sur nos vies au-delà de recréer de l'emploi et de l'activité économique sur les territoires. Et quand on a de l'emploi et de l'activité économique sur les territoires, on a des services publics, on a de la culture et on a de la démocratie. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'Europe.
Merci Yannick, merci de n'avoir dépassé que d'une minute en fait.
Ah ouais ? J'ai encore du temps
alors ? Non. Donc je vais fliquer Guillaume Balas pour qu'il ne dépasse que d'une minute lui aussi, ou même qu'il respecte ses 10 minutes. À toi Guillaume.
De toute façon, tout a été dit. Et d'ailleurs c'est ça qui est bien, c'est que ça fait très longtemps que je n'ai pas été à une tribune avec des gens avec qui j'étais d'accord. C'est assez extraordinaire. Et sur la totalité, alors avec des petites différences, des petites nuances... Mais en fait, je plaisante, mais je plaisante pas vraiment. C'est comment se fait-il quand même, ou tout ce qui a été dit là ce soir, que ce soit sur la question démocratique en Europe, sur la question sociale, sur la question écologique, à Nîmes, les débats de la gauche, des gauches en Europe, depuis tant de temps, et pourquoi nous sommes donc si faibles? Pourquoi en réalité nous n'arrivons pas à changer les choses? Et pourquoi l'Europe que nous n'aimons pas, c'est-à-dire cette Europe néolibérale, et moi je suis d'accord avec Yanis, qui construit par miroir son antithèse, nationaliste, eh bien, peut l'amener à la destruction pure et simple. Je crois que c'est un peu de ça dont j'ai envie de traiter, Aurore, donc tu me pardonneras, parce que sur les questions, comment dire, institutionnelles, elles en procèdent en réalité. S'il n'y a pas, j'allais dire, de majorité politique, de majorité sociale pour un projet politique, on peut toujours disserter des moyens des moyens techniques. Mais finalement, ça n'est pas très intéressant par rapport à la question stratégique. Et c'est plutôt de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Alors, première chose que je veux dire, je ne suis pas économiste, et je ne suis pas économiste du tout même, mais je vais quand même dire... Non, voilà, et donc je vais quand même parler un peu d'économie. Et vous dire, moi, comment je vois un petit peu les choses. Ça rejoint, hein, c'est une autre formulation de ce qui a été dit, avec peut-être un ajout. La fin des années 70 a vu en effet la révolution néolibérale, la contre-révolution néolibérale se mettre en place, installant d'ailleurs la financiarisation de l'économie comme un moteur de croissance, de croissance fictive, mais de croissance en tout cas en termes indiciaires, on pourrait dire d'une certaine manière. Ça a été donc ce qu'on a appelé la mondialisation. Bon, historiquement tout cela n'est pas bien défini, mais en gros il y a eu une nouvelle division internationale du travail qui a mis à mal profondément l'Occident. Et qui a permis quand même, je le rappelle quand même au passage, à des peuples et quelques millions, voire quelques milliards, pouvoir s'intégrer au marché mondial. Bien. Donc du coup, cette mondialisation a mis en compétition les travailleurs entre eux et donné un pouvoir au capital appuyé notamment sur les nouveautés technologiques et la numérisation, et donc une circulation extrêmement rapide du capital que n'a pas le travail par essence, qui lui a donné un avantage absolument considérable. Ça, c'est le premier élément d'affaiblissement du travail face au capital qui a été, et qu'on connaît tous, qu'on a tous analysé. Le deuxième effet, qui n'est pas un effet récent, qui date des années 70, mais là, qui plonge dans l'histoire longue, même pas du capitalisme, de l'économie dans le monde, c'est évidemment la crise écologique. Je n'y reviens pas, tout a été dit sur ce sujet, et je pense qu'une des contributions majeures, d'ailleurs, de réponse à la crise écologique en lien à comment on pourrait inventer un nouveau modèle économique, c'est Yanis Varoufakis, c'est Diem25 qui l'a écrit, avec notamment le plan hein, qu'il veut mettre en place sur ce sujet. Je crois que les éléments essentiels d'orientation aujourd'hui y sont. Mais je crois qu'il y a un deuxième phénomène que nous devons affronter. C'est que l'affaiblissement du travail face au capital, pour moi, ne s'explique pas simplement par la mondialisation. Je crois profondément que les évolutions technologiques récentes donnent des armes au capital qu'il n'avait pas auparavant. Et que notamment la vieille règle de Schumpeter que nous ressortent les néolibéraux de façon incessante, que la somme de travail détruite par les nouvelles technologies se recréera parce que de nouvelles activités ont toujours existé, et que donc il y a un équilibre qui fait que finalement on peut recréer autant d'heures de travail que l'on a détruites. Je pense que cette règle est devenue fausse et je pense que ça ne date pas d'hier. Je pense que ça date au moins depuis la fin des années 70, de ces révolutions numériques qui arrivent à ce moment-là. C'est pas il y a 2 ans qu'on a inventé le numérique, c'est une histoire bien plus longue. Et je pense que tout l'enjeu d'ailleurs des gouvernements est de masquer cette réalité à travers la lutte dite contre le chômage. Pourquoi ? Parce que comme le nombre d'heures travaillées reste à peu près semblable, voire régresse, et que la population augmente, il faut aujourd'hui masquer ce qu'est la réalité, c'est un partage sauvage du travail. Et c'est ça qui est en train d'arriver. Et c'est pour ça que vous avez des pays où ça crée du chômage de masse, pour plein de raisons, et il y a d'autres pays où ça va créer du sous-emploi et du précariat, et d'autres pays où il y aura et du chômage de masse et du précariat généralisé. Et qu'il y a eu toute une entreprise qui a été une entreprise idéologique phénoménale pour nous convaincre, nous tous, que c'est ça la modernité, c'est le « there is no alternative », nous ne pouvons rien faire contre, c'est la compétition telle qu'elle est, et ça engage ensuite l'ensemble des individus dans une compétition scolaire, dans une compétition par rapport au travail, à des stratégies géographiques, d'habiter plutôt le plus proche possible des centres-villes, si on le peut, par rapport au reste, etc., et que plein de choses ont été induites par cela. Mais ça, pour la gauche, c'est un élément qui est fondamental. Parce que le socialisme réformiste s'est, pendant très longtemps, construit la social-démocratie sur l'idée qu'on allait arriver par la force du travail à imposer un compromis avec le capital. Et c'est vrai que dans les moments keynésiens nationaux qu'on a pu connaître au cours du XXe siècle, après la grande crise du libéralisme des années 30, ça a fonctionné. Avec la mondialisation, c'est fini. Mais le problème, c'est que si le travail s'affaiblit, c'est-à-dire que, en gros, ce qui était la grève, le mouvement social, la capacité de lutte dans l'entreprise, est amoindri par le chantage au développement technologique. À partir de ce moment-là, eh bien, évidemment, la gauche qui s'était appuyée sur le monde du travail s'affaiblit aussi. Et donc, elle passe des compromis de plus en plus à minima. Et ces compromis de plus en plus à minima, c'est ce que nous vivons en Europe, je crois, depuis à peu près une trentaine d'années, où nous en arrivons à l'idée même, dans certains pays, où c'est la gauche qui fait finalement les réformes néolibérales en disant qu'il vaut mieux que ça soit elle que les autres, parce que ça sera moins pire. Et donc, toute la question qui nous est posée, c'est pas simplement de taper sur les traîtres, ça c'est sympa. Mais la question qui nous est posée, c'est comment on arrive à reconstruire aujourd'hui un rapport de force par rapport à cela. Et là, je rejoins beaucoup Gaël Giraud sur un point. Je pense que la notion de bien commun, donc d'intérêt général, est absolument cruciale. C'est-à-dire de déconnecter aujourd'hui le combat politique simplement des questions liées au travail pour recréer un intérêt général sur la question de la survie, donc de l'écologie, donc un nouveau mode de production, donc etc., etc. Par ailleurs, ça nous amènera plus d'emplois durables au passage, donc ça règle aussi une partie de la question. Deuxième élément qui m'apparaît central, c'est que cela, c'est-à-dire un nouveau modèle, ne peut pas être un modèle technique. Ce doit être un imaginaire politique. On n'anime personne à coup de démonstrations théoriques. Donc il faut créer avec ça, j'allais dire, la culture de ce nouveau modèle de développement. Et de ce point de vue-là, nous avons beaucoup de travail. J'aimerais terminer, puisqu'il me reste 2 minutes, sur le fait suivant. C'est que avec un constat pareil, et ce qu'on entend, on pourrait se décourager et dire que c'est fait. Le grand capital, entre guillemets, a gagné. Il va être extrêmement puissant d'un point de vue technologique, pouvoir se passer de plus en plus des femmes et des hommes au travail et que les inégalités vont exploser, c'est bien ce qui est en train d'arriver. Et pourtant, je vous dis, j'en suis même absolument certain, et cela concerne les semaines, les mois et les années qui viennent. Partout en Europe. Partout. Et il faut lutter contre l'idée qu'il y a les Français qui seraient sociaux, les Polonais qui seraient des méchants qui veulent nous voler les travail, les Grecs des feignants, les Allemands tous d'abominables austéritaires. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que dans toutes les sociétés, ces contradictions sont en train d'exploser. Que vous avez en Pologne des gens qui se battent pour l'harmonisation sociale européenne. Que vous avez en Allemagne des gens qui se battent contre l'austérité. Et la grande question, c'est comment nous allons aujourd'hui unir ces mouvements. comment nous allons faire politiquement pour ceux qui sont d'accord entre eux, enfin soient assez responsables pour faire une proposition commune aux concitoyens, à nos concitoyens européens, pour enfin donner une alternative, soit au néolibéralisme qui nous est proposé d'un côté, soit à sa réponse nationaliste de l'autre. C'est la question centrale aujourd'hui qui est posée aux gauches et aux écologistes. Et je pense qu'il est extrêmement important maintenant de commencer à répondre à cette question, et pas simplement de rester au constat que nous sommes d'accord, mais que nous sommes incapables d'avancer ensemble.
Des messages sont passés. Je laisse la parole maintenant à Yanis pour conclure sur le comment sauver l'Europe. Et puis après, on essaiera de prendre des questions très, très rapidement. Et je voudrais remercier Julia qui a tout traduit. Merci beaucoup.
The greatest enemy that progressives face in Europe is that when people who are not engaged in politics the way we are listen to us, they think, yes, right, good ideas, it will never happen. That is the enemy. And this is what I referred to before as Eurotina. That there is no, we don't like what the establishment is doing. Most people don't like what the establishment is doing. But they feel that there is really, deep down, even some of our left-wing comrades feel that deep down there is no alternative. Some of them even are left-wing because they are convinced in their own minds that none of their ideas will be implemented. But you can forget that for a second. So we need to answer the question, what do we propose to do? And to answer it in a way that convinces not those of you who are here, but those of those who are outside, the 12 million French who did not vote. Yeah, if we can convince them, we are going to be successful. If we don't convince them, we're doomed. So, Gael, allow me to a note of criticism. I agree with you. There is no such thing as an independent central bank. It's independent of the people, of the demos. It is highly dependent on finance and highly dependent on Wolfgang Schäuble, as somebody said. Yes? But if you put in your program what we are going to do, if we get elected on Sunday, on Monday we're going to make the central bank dependent on the demos, people say, yeah, right. So we need to be able to answer the following questions. What are you going to do on Monday morning, immediately, which means that we have to have a program that speaks to the minds and the hearts of people within the constraints of the institutions that we have, within the charter of the ECB, within the charter of the ESM, within the charter of the European Investment Bank, yeah? And then demonstrate logically that our proposals would make a significant difference in the next few weeks. Follow this up by what we propose to do in the next 2 years, and then finally finish off what we propose to do in the next 10 years. And make sure that this program is coherent and that pieces, its parts, fit into one another. That is the alternative. That's the antidote to Eurotina. In DiEM25, we've been wrecking our minds to come up with this, with a policy like this. And we've come up with a policy which we call the European New Deal. We've been working on it. Aurore has been part of it. Many friends and economists and members from all over Europe have worked on this, and actually some Americans that I can mention. Allow me to say a few words about it, to present it to you. And then I shall finish off by arguing, but by asking the next pertinent question, which is, and who is going to do it? So what needs to be done? Who is going to do it? The first thing we need to do is stabilize the Eurozone. The Eurozone is not sustainable. The French economy is condemned to stagnation, like every deficit economy. When you have a fixed exchange rate And the only mechanism for absorbing shocks is liquidation and stagnation of the deficit regions. Okay? So if France is going to become sustainable, if Greece is going to become sustainable, if Spain is going to become sustainable, we have to stabilize the Eurozone within the existing rules. This is not an easy task. Then, within 2 years, we have to be able to answer the question, who is going to and how are we going to finance the green transition, the green energy union, and the research and development into the green transition and the energy union. Here we will agree with Comrade Giraud to a large extent, but we have to be more specific than you have been. Then we have to ask the question, how are we going to finance an economic and social stabilization program? And then we have to move to the harder part, more long-term, within 10 years, of how are we going to finance programs that plan for post-capitalism, for dealing with the artificial intelligence impact on aggregate demand and inequality. And only then answer the political question of what kind of Europe, institutionally, what kind of European Union democratic constitution we envisage in the future once we get there. So allow me to start with the euro. We have four crises, I mentioned them before, which we can start dissolving within the first week of a progressive force taking control of the levers of power. Let me give you examples. Firstly, this is similar to Giles' idea. Take investment. Investment in green innovation, a green investment recovery program. What we need in Europe, I'll be very brief, I won't bother you with technicalities, we need about 500 billion euros to be invested every year. Year in, year out. That's 5% of your area GDP. It's what a New Deal demands. Where is this going to come? It cannot come from the French state because the French state is already at the buffers of its fiscal limits. But my estimation is that in Europe today, as we speak, we have two and a half trillion euros of idle cash sitting in bank accounts doing damage, bidding up house prices, bidding up share prices, and doing nothing productive. That's 2.5 trillion. That's a lot of money. And it's also crushing the pension funds in Germany because excess supply of money pushes interest rates low, destroys pension funds. So, here is the proposal. Imagine a press conference like ours here. You have the president of the European Investment Bank, you have the president of the European Central Bank, and you have the president of the European Union Council. And there's a very simple announcement. Every year, there's going to be a 500 billion investment program by the European Investment Bank. The money will come from issues of the EIB bonds. The EIB has been issuing bonds for 25 years, but issue a lot more of them. The only reason why the EIB doesn't do it is because it fears that so many bonds will depress their price and they will have a problem. But next to the president of the European Investment Bank is the European Central Bank president, who announces that the European Central Bank is standing by in the markets to buy those bonds if the price starts declining. Just a statement is enough to ensure that those bonds will not decline and the ECB will not have to do anything. Yeah. Problem solved. We have a European New Deal. Have you noticed? No treaty changes, no change in the charter of the ECB tomorrow morning. Someone will say, well, but what happens with the Italian public debt, which is now being kept under sort of control by the ECB purchasing it? That is not a solution, as we know. So here comes the second policy for dealing with public debt. We take the debt of every member state and we divide it into two parts. The part we were allowed to have under Maastricht, 60% of national income. Let's call it the good debt, yeah, the legal debt, and the rest. And the European Central Bank services a percentage of every bond that matures for Italy, let's say, which is equal to the proportion of the good debt. So in other words, saying that for the good debt, Italy gets helped by the ECB. The ECB doesn't pay for it. The ECB borrows itself in the international markets from international investors by issuing its own bonds on behalf of Italy. Italy repays them, but at 0% interest rate or 0.3% interest rate. If we were to do this, just the announcement of that, would reduce public debt in the Eurozone over a period of 20 years, net present value, of 45%. There goes the debt crisis in one press conference. It would be the same press conference, you know. The first announcement would take 10 minutes, the second would take another 10 minutes. Okay? A third program, anti-poverty. In the United States, the food stamp program is taking the poverty line from where it would have been today. Today, without the food stamp program, poverty would be at a level of 24% in the United States. And it's taking it down to 14%. Massive difference. It's a difference between a stable society and an unstable society. And the unifying effect, you know, that these checks have, these food stamp checks, when they arrive in the post box of a poor family in Missouri, in North California, in South Carolina, they get this check signed by Janet Yellen, the president of the Central Bank of the Federal Reserve, and that check the poor family can use to go to the supermarket and put food on the table. They feel Americans when they do that, because it's signed by the Fed. Imagine if a poor family in eastern Germany, in the banlieues outside of Paris, and in Greece, were to receive a check from the ECB that allowed them to put food on the table, signed by Mario Draghi. Think of the culture. You mentioned quite correctly, I think Yannick said it, that the euro is more than money. It's also a vector of morality and of culture. Imagine that. Now, the question is, where does the money come from? Because in the United States, it comes from the federal budget. We don't have a federal budget. On Monday morning, we're not going to have a federal budget. So where does it come from? Well, did you hear the news that the European Central Bank earned 8 billion euros from Greek bonds? The same central bank that crushed the Greek state and crushed our government profited from a crisis of its own making, yeah, by buying and selling our bonds. Now, okay, fine. How about using that money to fund the food stamp program? Do you know what the estimated annual profits of the central bank will be in 2020 from this year's quantitative easing? 500 billion. 500 billion. Well, fund an anti-poverty program throughout Europe with checks that are signed by the ECB. Why should that money be returned to the successor of Wolfgang Schäuble? Finally, the banking union. We don't have a banking union, you're quite right. We have a joke of a banking union. What if we agreed? Because Schäuble, when I said to him, let's have a proper banking union, he said, oh, no, 6,000 banks, too many to put in a bank. How about having a banking union of no banks, zero banks? But let's agree that every time a bank fails, it goes into a new European Union jurisdiction, it gets recapitalized from the European Stability Mechanism, the board of directors get fired. If it's an Italian bank, the new directors are not Italian. They can be Singaporean, I don't care what they are, but they are not Italian. The Greek ones are not Greek, to break the cozy relationship between the politicians and the bankers. And then within 2 years, you can sell that bank once it's been cleansed, and the taxpayer, the ESM, gets his money back. So these are all things we can do tomorrow morning. Second question. The euro, without a federal budget, is unsustainable anyway. Here our proposal, the DiEM proposal, is that every European member state is encouraged to create a public digital payments platform which creates fiscal euros using the tax office's website that allows arrears between debts, between individuals, and between the state and individuals and individuals and the state to be recycled through this payment system, and allows the government a certain amount of leeway, let's say 20% of selling to citizens tax credits that citizens can use in order to save up to 10% of next year's tax payments if they prepay their tax today. So you create effectively a parallel payment system parallel to the private banks, which gives more degrees of freedom to the deficit states, including France, and at the same time reduces the costs of a potential breakup of the euro, which will prevent the breakup of the euro because it will reduce the capacity of Mario Draghi to threaten our progressive governments with exit like they threatened us if the costs of exit are reduced, and therefore reducing the chances of a eurozone breakup. Moreover, this public digital payments platform offers great competition to private bankers, reduces the costs of banking generally, and in the long term, you can link these fiscal monies, fiscal euros, the French fiscal euros, the Italian fiscal euros, the Greek fiscal euros, in a clearing union very similar to what John Maynard Keynes had proposed in 1944 in Bretton Woods, allowing us to link trade flows and to penalize both trade deficits and trade surpluses symmetrically, something that Germany will not like, but something which is absolutely essential for stabilizing the eurozone. But that is in the long run. Now, allow me to finish off by mentioning our proposals regarding funding the green transition and green the green energy union, which is absolutely essential in Europe. We envisage the creation of two new bodies within 2 years. This is more medium run proposal. We are proposing the creation of a green transition works agency that will design the projects, just like the Manhattan Project designed the nuclear bomb, the atom bomb. We will be designing the opposite, technology that saves the planet rather than destroys it. And in parallel, what we call the European Equity Depository, which will be funding it. Where does it get its funding from? Our proposal is all central bank profits are channeled in the long term in that depository, and the pan-European inheritance tax is added to this together with a pan-European carbon tax. This transition and energy union works authority is going to effectively to fund innovation in the green transition. Regarding the economic and social stabilization program, the idea there is to guarantee those who want a job in their own communities, whether it is in Romania, in Greece, or in some province in France, that they will be able to do work that maintains their communities, receiving a living wage, no more than a living wage, which is calibrated to the levels of the nation state, so it will be different in Romania to what it is in France. That would save the state unemployment insurance and other benefits. It will add to the tax receipts, and it will stop involuntary migration, because people do not migrate from their communities because they want to taste, you know, high cuisine in Paris or the cuisine of the British in London. They migrate because they can't survive and they cannot maintain their communities at home. And finally, planning for post-capitalism, for effectively socialism, folks. Let's face it, every time you take your phone and you search something in your Google search engine, you are contributing to the capital of Google. Capital was always socially manufactured, but now it is a lot more so. Once upon a time, you could say a steam engine was produced by James Watt. It was a private piece of ownership. He transferred it to a textile manufacturer. It remained private, and the textile manufacturer claimed profits as a return to his private capital. Google cannot do that. Apple cannot do that. All of the technologies in our phones are either the result of your searches or the result of public investment programs that contributed to those technologies. So, a very simple idea. Why don't we, and interestingly, I've had some positive responses from people in Silicon Valley to this, why don't we take 10% of all the shares issued by in any IPO, initial public offering, or capital raising, 10% of those shares and put them in the European Equity Depository and fund from the increasing and accelerating income stream that goes into this particular account of the Equity Depository a universal basic dividend. Not a universal basic income, not tax funded, a universal basic dividend. And think about it. What percentage we decide determines whether we live in capitalism or socialism. Because ideally, for a left winger, if it's 100%, we have common ownership of capital without central planning. But we can start modestly at 2%, 3%, 10%. And as artificial intelligence replaces humans with robots, it is the humans that become the equity holders of the returns to those robots. This is for the next 5-10 years. Finally, this agenda must come hand in hand with an agenda on transparency in politics, in the European Union, with a policy of migration that does not treat humans as means to an end, and a process that leads to a series of European Union constitutional assemblies with the purpose of drafting a democratic European Union constitution that replaces all the treaties and the European Central Bank's charter. Now, that is the policy agenda with which DiEM25 will be contesting the European Parliament elections in 2019. We are really not interested in winning. We're interested in putting this agenda out there. And this is, if you want, please consider it an invitation to all progressives to join us. Because politics must change. The old style of doing politics, where five different politicians got together and decided to form a political party. And then, later, asked themselves, okay, and what is our policy? That must change. What we're trying to do with DiEM25 is lead with a policy and say, folks, what don't you like about this policy agenda? Tell us what is wrong. Let's work on it together until we agree on it. And when we agree on it, let's run together. But at a transnational, pan-European level, because another Europe is not possible. Another Europe already exists. We're demonstrating this at DiEM25. We have members from Germany, from France, from Italy, who are just members of a pan-European democratic movement. We can demonstrate that the demos has already begun to form. Let's take it to the 2019 European Parliament elections and let's just make waves. Thank you.
Alors, on va passer à un exercice de frustration assez intense, à mon avis. Il nous reste 15 minutes. On doit partir vraiment à 9h pile. Nous avons à votre gauche Marion et à votre droite, peut-être quelque part, Hugo, qui ont des micros, qui vont vous les passer pour que vous puissiez poser des questions. J'insiste sur le poser des questions et non pas faire des déclarations. Pour qu'on partage, vu qu'on est dans le partage aujourd'hui, pour qu'on partage aussi le temps de parole et transition éditoriale, puisqu'il n'y a que des adultes dans la salle. Nous allons avoir une conversation entre adultes. Je vous conseille donc le livre de Yanis. Et nous allons être capables de gérer nos frustrations entre adultes très correctement. On va prendre 3 questions.
Alors, juste très rapidement, donc comment peut-on faire pour que justement un nouveau traité européen soit adopté?
Merci d'avoir respecté la consigne.
Oui, j'ai compris qu'en fait vous utilisiez, donc je suis là, j'ai compris que vous utilisiez en fait le système financier actuel pour trouver des financements et pour redistribuer les richesses. Or, il me semble que la Grèce a été ruinée justement essentiellement à cause des taux d'intérêt excessifs et donc de sa dépendance aux marchés financiers et aux capitaux étrangers. Or, aujourd'hui, l'argent est immatériel et il devrait donc pouvoir être créé dans chaque pays en fonction de ses besoins. Donc ma question, c'est ne pourrait-on pas réformer totalement les systèmes de financement des États et des entreprises et supprimer notamment le marché obligataire et le marché des actions tel qu'il fonctionne aujourd'hui, à savoir avec des, qui sont des jeux d'argent spéculatifs.
Merci. Dernière question avant qu'on commence avec les réponses.
Oui, bonsoir. Je me demandais si le règlement général de protection des données personnelles qui entre en application en mai 2018, qui a été issu d'un processus démocratique très intéressant à l'échelle européenne, 4 ans de négociations et qui a été adopté par le Parlement en 2016, n'était pas un modèle intéressant de construction de l'Europe, c'est-à-dire dans le sens de la construction d'une Europe de la donnée, et qui offre un cadre harmonisé. Donc on en parlait, je crois que c'est Dominique Méda, aussi Audrey Poulvard parlait de normes. Donc créer un cadre harmonisé pour les régions, un cadre positif qui donne de nouveaux droits aux citoyens, un contrôle de leurs données personnelles, qui est coercitif sur le monde de l'entreprise. Donc voilà, c'est donc en fait quelque chose qui nous, enfin, qu'on a beaucoup entendu finalement aujourd'hui. En fait, est-ce que ça peut pas être un modèle sur lequel on peut appuyer une réflexion et construire une Europe quand on pense à la domotique, aux smart cities, etc. Tout l'impact qu'on peut avoir sur la transition énergétique, voilà.
Merci. Je vous propose de répondre. Très brièvement, qui veut répondre à la question du nouveau traité? Ok, Guillaume, très rapidement.
Je ne crois absolument pas que ce soit un combat essentiel, non pas parce que je pense que je veux l'éviter, mais c'est parce que moi je crois que le droit et l'interprétation des traités est toujours le résultat en réalité d'un rapport de force, et ça a toujours été la question. Les traités sont violés à peu près quotidiennement par l'ensemble des pays européens, ça dépend si ça va dans le sens du vent dominant ou pas. Quand l'Allemagne violait vraiment sans aucun problème la question des déficits publics en étant très largement au-dessus, notamment des déficits publics autorisés, ça n'a gêné à ce moment-là absolument personne. Donc je pense que si on attaque la question par les traités, la réponse notamment de la droite, pour parler vite, va être très simple. Elle dit on ne peut pas les changer puisque de toute façon il faut l'unanimité. Et tout de suite, vous invalidez tout ce que vous pouvez faire et tout ce que vous pouvez proposer. Donc je crois qu'il vaut beaucoup mieux passer aujourd'hui par l'idée de projets extrêmement concrets, y compris je suis d'accord sur notamment le fait d'établir des projets à très court terme, à moyen terme et à long terme, et d'établir ces projets sans penser s'ils sont cohérents ou pas avec les traités. Si vous avez une majorité politique, vous changerez les traités ou vous les interpréterez de la manière dont vous voudrez. Alors je sais, pour les juristes ici, c'est très violent ce que je dis, mais sincèrement, je pense que ça n'est pas le réel problème aujourd'hui.
Merci Guillaume. Un rapide mot de Yanis.
Paralysis. This is what's going to happen if we start trying to reform the European treaties now. I agree entirely with Guillaume. First, we need to bring hope back in Europe, to have stabilization and growth, and not growth, development without growth, I agree. Yeah? And then, once we bring hope back and we beat back the nationalists internationally, then we can do that. But it's a question of sequence. But I need to answer the question about the technological markets, the big data markets, and the European privacy protection. Allow me to say one thing. Here in Europe, we're facing a major danger: the complete loss of technological sovereignty. Silicon Valley is, as we speak, creating a brave new horrible world, and Europe is at the stage of the Stone Age compared to Silicon Valley. And European capitalism is utterly incapable of competing in this technological world. There is only one way of overcoming this, at the pan-European level, to develop the investment and financing strategies and the impediments to Google and Apple and Facebook and Amazon with legislative constraints upon them that will enable Europeans to create the technological innovations that will stop the big brother who lives in Silicon Valley from destroying any chance of technological sovereignty and privacy in this continent.
Merci Yanis. Yannick Jadot sur la question des données personnelles, puis Audrey sur la question du financement.
Sur la question des données personnelles, merci de l'avoir mentionné, surtout que c'est un député écologiste qui a porté ça au Parlement européen, c'est Jan-Philipp Albrecht, et c'est un grand succès. C'est une question de rapport de force politique. L'Europe, elle a fait REACH sur les produits chimiques. L'Europe, elle a été la première à construire une protection de l'agriculture biologique. L'Europe, elle a fait les quotas laitiers. L'Europe, elle a fait plein de bonnes choses parce que des majorités politiques à ce moment-là ont voulu faire plein de bonnes choses. Et puis d'autres majorités politiques, aujourd'hui, sont plutôt gangrénées par les lobbies ou par une forme d'affaissement intellectuel ou de paresse intellectuelle. Dominique Méda parlait des occasions manquées. Il n'y a peut-être pas besoin de remonter jusqu'en 1948. À la fin des années 90, la gauche gouverne toute l'Europe. La gauche gouverne toute l'Europe. Et ils ne le font pas, l'Europe sociale. Les sociodémocrates européens n'ont pas fait l'Europe sociale au moment où ils étaient en Espagne, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France. Ils étaient partout. Donc, mais oui, mais c'est pas la question. Je t'attaque pas. Je te dis les occasions ratées. Donc, en revanche, là où tu as raison, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a une opportunité extraordinaire de reconstruire, mais un élément de démocratie qu'on n'a pas tellement évoqué, c'est la question des conflits d'intérêts. Dans ce modèle libéral, ce n'est pas simplement les lobbies qui gangrènent tous les systèmes, c'est que finalement les lobbies gouvernent. L'étape ultime, c'est les lobbies qui gouvernent aux États-Unis. On parlait du CETA, je vais être très court. Le CETA a été négocié par Harper, qui aujourd'hui travaille pour les multinationales. C'était le premier ministre canadien. Côté européen, c'était Barroso, qui aujourd'hui travaille pour Goldman Sachs. Et le commissaire au commerce, De Gucht, qui travaille aujourd'hui pour les multinationales. On est dans un monde extrêmement complexe, on a besoin de beaucoup d'experts. Si on n'a pas des experts indépendants de ces grandes industries, on n'y arrivera pas. Et dernier point, un élément essentiel qui manque dans la construction européenne, c'est une politique industrielle. On a une politique de protection des consommateurs, on a une politique de marché, mais on n'a jamais réussi à l'échelle européenne à vaincre les souverainismes industriels. Aujourd'hui, tout ça s'écroule de partout. Si on n'a pas une politique industrielle, comme ça existe aux États-Unis, avec un Buy European Act, avec des vrais investissements autour de ces sujets-là, alors on aura des géants européens. Alstom, qui passe chez Siemens, ça ne fait pas un géant européen. Ça fait un géant en Europe, ce qui est très différent. Et donc, il faut faire ça. Un sujet, par exemple, ouais. J'ai fini, ouais. C'est la batterie électrique. Tu as parlé du numérique, tu as raison. La batterie électrique dont tout le monde parle autour de la voiture. Il y aura trois centres dans le monde. Il y en a un aux États-Unis, un en Chine. La question, c'est de savoir s'il y en a un en Europe. Et bien ça, c'est un beau sujet de politique industrielle.
Merci Yannick. Je passe la parole à Audrey sur la question du financement.
Oui, et puis aussi je crois qu'il faut qu'on commence à réfléchir à un monde sans voiture et ne pas se dire que la voiture électrique est forcément la solution à tout, même si c'est bien que c'est pas ce qu'a dit Yannick Jadot à l'instant. Sur le financement, très rapidement, moi je crois que c'est une question vraiment de choix, comme pour tout ce qu'on a dit depuis le début de cette soirée, c'est une question de choix politique. Vous savez, le secteur pétrolier, le secteur gazier, le secteur du charbon, les énergies fossiles en général, je crois que c'est un secteur qui se porte plutôt bien dans le monde. C'est un secteur qui n'a pas trop de problèmes de financement. Et pourtant, c'est un secteur où encore aujourd'hui, on reçoit dans l'ensemble, sur l'ensemble de la planète, 500 milliards d'euros de subventions, donc de fonds publics. 500 milliards d'euros sont mobilisés sur l'ensemble de la planète chaque année pour venir en aide au secteur pétrolier, des énergies fossiles dans son ensemble. En revanche, surprise, les énergies renouvelables ne mobilisent que 110, 120, 130 milliards d'euros publics sur l'ensemble de la planète. Donc là, il y a peut-être une question de choix politique à faire. Je vous disais tout à l'heure que le traitement de dépollution des eaux par rapport à des eaux EAUX en France, par rapport aux traces de pesticides ou autres produits phytosanitaires, aux traces de nitrates qu'on y trouve, coûte chaque année à la finance publique en France 50 milliards d'euros, c'est-à-dire l'équivalent de notre budget pour l'éducation nationale. Eh bien, si on s'intéresse à la question du traitement des nappes phréatiques, par exemple, on monte très rapidement à des montants qu'on estime difficilement de façon précise entre 150, 200 et 220 milliards d'euros par an. Voilà, la question, elle est des choix politiques qui sont faits. Si l'on évalue le coût pour la santé publique de la façon dont la filière agricole est organisée dans notre pays, dans l'ensemble de l'Union européenne, je pense qu'il y a là de quoi faire, de quoi trouver de l'argent pour financer la transition écologique. Et puis dans les emplois qui peuvent être créés également par la transition écologique, dans l'autre forme de croissance que nous proposons, je crois qu'il y a aussi largement de quoi autofinancer cette transition écologique. Mais c'est, comme d'habitude, une question de choix politique qui s'impose. Et j'en termine pour dire que là aussi, il y a une responsabilité du citoyen et de la citoyenne qui vote. Parce que ici, nous en sommes persuadés, dehors, ils en sont persuadés aussi, le climat change. L'impact du changement climatique sur nos vies, c'est déjà maintenant et c'est ici aussi. Mais quand il s'agit de voter, la plupart des électeurs, ceux qui en tout cas font le chemin jusqu'à l'urne et des électrices, se disent « Bon, c'est bien joli tout ça, mais j'ai plus urgent à régler. J'ai un problème d'emploi, j'ai un problème de sécurité, par exemple. » Sauf que la réalité, c'est que l'urgence climatique, elle est telle qu'elle est aussi urgente que ce qu'on considère comme nos premières urgences, et que la solution et les solutions, la transformation que nous devons mettre en œuvre pour y faire face, va aussi être une partie de la solution de ce qu'on considère comme nos premiers problèmes. Donc, il y a une responsabilité de l'électeur et de l'électrice, et il y a évidemment une responsabilité du dirigeant ou de la dirigeante politique.
Merci Audrey. Gaëlle, sur la question du financement.
Oui, merci de nouveau. Très rapidement, juste un exemple de ce qui a déjà été fait en 2008 pour sauver les banques françaises. Donc vous savez qu'à Noël 2008, nos quatre champions nationaux sont tous quasiment en faillite. Et le gouvernement de l'époque se demande comment les sauver. Une solution est trouvée en 3 jours et 3 nuits qui consiste à construire ce qu'on a appelé la Société de financement de l'économie française, la SFEF. Société de droit privé dans laquelle l'État a mis un peu de capital, qui a été dirigé par Michel Candessus, donc qui a apporté toute sa caution et son autorité morale et son magistère, qui était redevable auprès du Parlement. Et cette société, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a émis de la dette, donc elle a emprunté de la dette avec la garantie publique qu'elle a reprêtée aux banques françaises. Et donc elle a évité le naufrage du secteur bancaire français. Grâce à quelle astuce? Elle a utilisé la garantie publique française qui n'est pas comptabilisée comme de la dette publique. Elle était contrôlée par l'État. Mais comme c'était une société de droit privé, avec du capital majoritaire privé qui venait des banques elles-mêmes, qui ont mis un peu d'argent pour se sauver elles-mêmes, ceci n'a pas augmenté la dette publique française. Question, qui est une question qu'on a posée avec Alain Grandjean qui est ici, il y a quelques années déjà, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose pour financer la transition écologique? Donc ça ne suppose aucun changement des traités, c'est immédiatement faisable, on l'a fait en 3 jours pour sauver les banques. Et on a entendu comme réponse, ah mais vous savez bien que ce qu'on a fait pour sauver les banques, il est hors de question de le faire pour sauver la planète. Voilà. Donc ça c'est un enjeu. Ça c'est un point très simple. Je voudrais juste terminer en disant, donc je suis complètement d'accord avec ce que disait Yanis sur il faut des propositions concrètes qu'on puisse mettre en œuvre tout de suite sans modifier les traités. Et je suis absolument d'accord. Et une partie de ce que j'ai dit et de ce qu'a repris Yanis, le quantitative easing vert, tout ça, il faut trouver des tuyauteries et il y a des tas de constructions qu'on peut mettre en œuvre et proposer et qu'on peut appliquer demain matin. Et par exemple, séparer les banques, vous pouvez le faire demain matin, vous n'avez pas besoin de réformer les traités. En même temps, il me semble, pour ma part, qu'il faut aussi proposer une vision politique de long terme, et d'ailleurs c'est aussi ce que fait Yanis, parce qu'il n'y a pas que le bras de fer politique au niveau des gouvernements avec Schäuble et la Commission européenne, il y a aussi la vision de la société qu'on veut construire dans 20 ans, mais qu'il faut construire aujourd'hui, dans laquelle la société civile est partie prenante, les ONG sont partie prenante, les syndicats, les communautés dans la Creuse profonde qui s'organisent pour faire une monnaie locale, etc. Ça fait partie de la réponse. Et donc c'est pour ça, à mon avis, qu'il faut à la fois faire des propositions très concrètes qu'on peut mettre en œuvre demain matin et qui, comme le dit Yanis très justement, redonnent l'espoir, montrent que c'est possible, et en même temps proposer aussi une vision de long terme, parce que c'est ça au fond qui nous fait bouger le matin, c'est d'avoir un projet de société pour les 25 années qui viennent.
Merci Gaëlle. Alors, c'est le moment de frustration intense. Il est 9h. On va être obligé de libérer
la lumière s'éteint.
Je voudrais remercier tout d'abord Hugo, Samuel, Marion, Edith qui nous ont aidés gentiment à préparer cette journée. Et tous les intervenants. Merci à vous tous d'être venus ce soir. Alors, si vous voulez qu'on continue à lutter contre le CETA à l'Institut Veblen avec notre partenaire préféré qui est la FNH, mais aussi Foodwatch et plein d'autres, si vous voulez qu'on continue à prôner la transition sociale écologique, si vous voulez qu'on continue à publier la modeste proposition de Yanis Varoufakis, n'hésitez pas à déposer un peu d'argent dans une urne qui se trouve à l'extérieur et qui nous permettra de financer cette salle ce soir. Merci à tous et toutes d'être venus. Et merci à Yanis Varoufakis, d'être venu, et merci à vous tous.